Les jeudis de la semaine. Chaque jeudi de la semaine du mois de juillet, une personne en invite une autre pour, le temps d'un apéro dans le jardin des laboratoires, lire à voix haute des textes choisis. Jeudi 23 juillet 2020, à 20h, Ondine Close invite Clémence Gaillard et Anne Langlais. Le roman de silence.
L'homme meurt et la sauge en son jardin abonde. C'est que contre la mort, il n'est remède au monde. S'il en était la sauge, aurait le riche don de sauver les humains, comme le dit son nom. Pour conforter les nerfs, fixer la main tremblante au-dessus de la sauge, il n'est aucune plante. La fièvre ne tient point contre ce simple encore. La sauge, la lavande et l'esprit de castor sont des remèdes sûrs pour la paralysie. Rimevers, on y joint cresson et tanaisie.
Le roman de silence. Roman de Eldris de Cornouailles, 13e siècle, en vers octosyllabique. Traduit de l'ancien français par Florence Boucher. Prologue. Maître Eldris de Cornouailles a écrit ses vers entièrement dans les règles. En exorde à ses trouvailles poétiques, il adresse une demande, un ordre, au propriétaire de son œuvre. Que celui qui possédera ses vers les brûle, plutôt que de les dispenser à un public qui, lorsqu'il entend un bon conte, comprend mal sa signification. Eldris ne veut pas que ses vers soient divulgués parmi des gens qui prisent moins l'honneur que l'argent, ni parmi des gens qui veulent entendre tout le conte sans se soucier d'en donner une récompense suffisante pour qu'on en puisse profiter. Un clerc aurait beau rester longtemps à l'étude pour trouver des rimes et faire des vers, notre siècle est si mauvais qu'il aurait trouvé ses rimes avant de dénicher, à l'exception d'un sol princier, un endroit où il soit susceptible de recevoir assez d'argent pour prix de sa peine et d'une semaine de travail. Voulez-vous savoir comment on reconnaît les avares ? Servez-les bien, comme votre père. Vous serez les bienvenus, bons ménestrels, et bien reçus. Mais lorsque viendra le moment de réclamer vos gages, savez-vous ce que vous obtiendrez ? On vous fera grise mine et grimace, car telle est l'habitude de ces gens-là. Misérables, maudits avares. Notre vie sur terre n'est certes que passagère. Vous achevez de l'attrister quand de nos jours, par votre faute, on ne peut plus rire ni s'amuser. Malheureux, à force d'amasser des biens, vous appauvrissez votre vie. Vous le savez déjà fort bien vous-même, de nos jours, la flatterie est bien en cours. On l'aime, on lui fait bon accueil. Un désir impérieux m'assaille et m'étreint dans ce prologue de mon poème. Quelle pitié que les gens s'avilissent malgré eux. J'éprouve le besoin d'exprimer un peu mes griefs afin de me tourner ensuite vers de nobles pensées. Je veux sans tarder me soulager en sorte que, lorsque viendra le moment de raconter mon conte, plus rien de préjudiciable à mon œuvre ne pèse sur mon esprit. Voici donc mon sentiment. Malheur à ceux qui, les premiers, ont forgé ces coffres-forts qui dégradent je ne sais combien de rois, de comtes et de chevaliers. Ou, avare, ou, vous êtes trompé par votre propre avarice. Renoncez-y, reniez-la, sinon je vous retire ma confiance. Le froment vaut mieux que l'ivraie. la rose mieux que la marguerite, l'autour mieux que le faucon muet, le faucon mieux que la buse, le bon vin mieux que l'eau croupie, le butor mieux que la pie. De même, une honnête pauvreté vaut mieux que mille mares sans joie ni fête. Mieux vaut être généreux et libre dans ses désirs qu'être avare et roi de France. Ou bien encore, mieux vaut l'honneur que la honte. À présent, je vais me lancer dans mon conte et mettre un terme à mon prologue, car vif est le désir qui m'anime de mettre en branle mes rimes et d'abandonner querelles et reproches. Donc ça, c'était le prologue. Et après, il y a toute la première partie du livre, les premiers chapitres, qui donne un peu le contexte qui fait qu'à l'époque, les femmes ne peuvent plus hériter. Donc après, on arrive au chapitre 4. Donc le roi Renaud demande à un chevalier d'aller combattre un dragon. Le chevalier, c'est Cador. Cador tue le dragon et il est blessé. Et le roi lui dit que, comme il a tué le dragon, il peut choisir dans son royaume n'importe quelle épouse. Euphémie, la fille du roi, va soigner Cador. Et il lui dit, si tu arrives à soigner Cador, qui a tué le dragon, tu auras le droit de choisir dans le royaume l'époux qui te convient.
Chapitre 4, donc, naissance de l'amour entre Cador et Euphémie. Mais elle a empiré son état. Ses allées et venues, son contact, ses attouchements ont-elles une maladie, exacerbé l'amour de Cador. Sa passion l'habite plus qu'auparavant. Plus il la voit, plus il la désire. Et dans son désir de la voir, puisqu'il faut avouer la vérité, il sent son cœur fortement épris. Hélas, fait-il, l'amour engendre-t-il une telle douleur, une telle amertume? En ce cas, il a tort d'agir en faisant d'abord le bien, puis le mal. C'est sa tactique pour attirer les gens. Le mal que le dragon m'a infligé n'est pas aussi grave que celui-ci. Il ne faisait pas honte à voir, tandis que je n'ose avouer celui-ci à personne. Amour m'a rendu coire devant une femme, après m'avoir donné le courage d'entreprendre pour elle une tâche ardue. Ce mal m'en sert de toutes parts. Certes, je pourrais la prier d'amour, mais la jeune fille pourrait alors me reprocher ses efforts et ses soins. Croire que je lui impute de folles pensées et que c'est pour cela que je lui demande de devenir mon amie. Elle m'a délivrée d'une maladie, mais à la vérité, elle m'accable d'une bien plus grave. C'est une ivresse qui me trouble l'esprit. Bien que guérie, je languis. Je n'ose, hélas, la prier d'amour et ce n'est pas en me taisant que je ferai mon bonheur. Peut-être aussi avait-elle déjà un ami avant de se mettre en peine pour moi. Et puis c'est bien dans la nature de la femme de n'agir pas au mieux de ses capacités. Elle tient pour raison sa volonté et cherche l'occasion de se déshonorer. Elle fait valoir son désir contre la nature, contre la raison et contre le droit. Elle ne prend garde où elle engage son amour et le cas échéant, elle se précipite hors du droit chemin car elle s'égare volontiers. Mais se taire, voilà qui est plus sûr. Amour m'a plongé dans le tourment, sans espoir de guérison.
Or, voilà ce qui fait enrager Euphémie. Chaque jour, elle voit ce qu'elle désire, ce désir dont elle se prive. Elle voudrait qu'il sache qu'elle ne souhaite avoir d'autre ami que lui. Seulement, elle n'a pas le courage de lui dire qu'elle est son amie. Puis-je affirmer qu'elle est heureuse alors qu'elle ne fait peu ou prou rien de ce qui lui tient à cœur, hormis l'aimer sans oser le lui dire? Si elle ressent de la joie dans son amour, ce sentiment est tellement mêlé de souffrance que je n'ose le nommer joie. De toute façon, elle doit en ressentir bien peu. À cause de la douleur qui l'étreint et de l'amour dont elle se souvient, elle gémit, s'agite et s'écrie. Malheureuse, je ne suis ni morte, ni vraiment vivante. Mon Dieu, moi qui ai guéri bien des gens, me voilà finalement bien attrapée. Assurément, c'est Cador qui m'a rendue malade. Ce jeune homme est l'entier responsable de ma faiblesse. En le voyant hier soir si noble, si beau, je me suis rappelé ses hauts faits et j'ai senti mon mal empirer. amour agit sans égard pour moi. Aucune science, aucun artifice ne peuvent m'aider. Je suis capable de soigner les autres, mais toute ma science ne vaut pas un radis pour mon propre cas. C'est pour mon malheur que je me mis à le fréquenter. Dragon de malheur, venin de malheur qui m'y cadore dans cet état. La maladie m'a gagné. Aïe, misère. Je suppose qu'il a une amie ailleurs. S'il n'était libre de se choisir une épouse, je pourrais avoir quelques prétentions sur lui. Sans le choix de cette épouse, malédiction, le roi ne s'opposerait pas à mon bon droit. À quoi me servirait de le demander ? Ce ne serait pas convenable, puisque c'est d'abord à lui de jouer. S'il me désire, il peut m'obtenir, sinon, il n'y est pas forcé. Ah, Dieu, le cruel tourment que voilà. S'il le veut, je ne serai jamais sienne, alors que pour sûr, je suis tout à lui. Misère. Et son visage que j'ai vu hier, il était plus joli qu'une rose. N'ai-je point agi contre mon intérêt ? N'ai-je point commis une folie en le guérissant si rapidement ? Car enfin, j'avais jusqu'à présent d'excellentes raisons pour venir souvent dans la maison pendant sa maladie. Alors pourquoi m'inquiéter, pourvu qu'il recouvre un jour sa santé et sa force, si, pour faire durer ma mésaventure, il eût longuement enduré cette fièvre ? C'était juste avant l'aube. Euphémie ne cesse d'exhaler sa souffrance. Elle s'étend, nue, sur le lit.
Elle s'assied alors sur la marche. Deux fois de suite, elle s'évanouit. Et quand elle peut parler, elle appelle aussitôt Cador et dit son nom. Cador est le sujet de toutes ses paroles. Ce dernier languit, sans deviner la vérité. Et Amour tient l'un et l'autre en sa main. S'ils veulent obtenir leur guérison, il faut obligatoirement que lui soit guéri par la jeune fille et qu'elle soit soignée par lui. Ou bien chacun d'eux guérira l'autre, ou bien leur mal restera sans remède. Le jour paraît et Euphémie se relève d'un saut sans s'attarder. Elle se rend dans la chambre de son amie. Elle lui dit « Mon ami, parlez, à moi. » Elle était sur le point de lui dire « Parlez-moi. » Mais l'amour lui faisait si mal qu'il la poussa à dire « Parlez, à moi. » au lieu de « Parlez-moi ». Elle aurait dû lui dire « Parlez-moi », mais ce « à moi » lui tenait à cœur. Ayant prononcé le mot « ami », elle ajouta « à moi ». Elle voulait dire « Parlez-moi » et s'est exclamée « à moi » à cause de la douleur qui l'habitait. Elle a donné à Cador un grand espoir en lui murmurant « à moi » après l'avoir d'abord nommé son « ami ». Il se croit à présent comblé. Ces deux mots, « à moi » et « ami », lui ont procuré un grand réconfort. Le mot « ami » prouve l'amour et « à moi » est le cri de plainte qui en résulte. Cador éprouve maintenant de la joie avec son désir, puisque « amour » cause peine et souffrance à Euphémie. Ce terme d'« ami » fait espérer à Cador qu'il pourra bientôt réaliser ce qu'il convoite et désire le plus. « À moi » révèle son martyr, la peine d'amour qu'elle a endurée. À moins que ses paroles ne soient une feinte, car bien qu'elle l'appelle son amie, ce n'est pas une preuve qu'elle l'aime, et telle qui est qualifiée d'amie n'est pas tendrement aimée. Du coup, voilà Cador plongé dans le doute et néanmoins plein d'espoir. Ne l'appelle-t-elle pas amie et lui ami ?
Ils se prennent par la main droite. À ce contact, leur ardeur augmente tant qu'ils ne peuvent se retenir de joindre leur bouche. Sans un mot, ils font preuve, ce me semble, d'un parfait amour. Ce baiser leur apprend véritablement à elle, qui endure peine et martyre, à lui, qu'elle aime et le désire. Car ce n'est pas un baiser de compère ou d'une mère à son fils ou d'un fils à son père, non. C'est un baiser dont la saveur n'appartient qu'au parfait amour. Et si vous me réclamez la vérité à ce sujet, ce n'est pas moi qui vous apprendrai combien de baisers ils se donnèrent à ce moment. Plusieurs, un seul, 100. Mais sans mentir ni tergiverser, j'ose bien affirmer qu'avant la fin de leur embrassade et la suite de leur conversation, on aurait pu parcourir une lieue. C'est un bon cuisinier qui lui apprêta ce repas salé. Il n'y avait ni trop, ni trop peu de sel. Et le miel n'y avait point été omis. En effet, Si cela leur avait semblé amer, ni l'un ni l'autre n'aurait tant prolongé l'affaire. Plus douce est la saveur du baiser qui les atteint au cœur, plus, au même instant, augmente leur amour. Et comme ce qu'ils désirent le plus au monde est désormais à leur portée, mais qu'ils s'abstiennent de se contenter, voilà leur douleur doublée. Je puis en donner une bonne image. Celui qui a faim, mais n'ose goûter la nourriture qu'il tient entre ses mains, la faim le tenaille d'autant plus. Dans le baiser qu'il s'octroie réside une bonne part de ce qui les fait souffrir, les tourmente et les afflige. Mais ils sont également si heureux de cette aubaine qu'ils s'estiment délivrés de leur souffrance par le baiser qui les réjouit. Celui-ci les fait progresser et grandir leur espérance. Tout les ravit maintenant. Ils se sont fait un rempart d'espérance. Sachez-le tous, estimant leurs espoirs les plus chers sur le point de se réaliser, ils n'imaginent plus le malheur possible. Ils s'enlacent, échangent un long baiser. Quand ils peuvent à nouveau articuler un son, ils se parlent. Ils lui adressent la parole. Elle lui répond, et alors ils dissipent leur erreur. Ami, je suis votre ami, c'est vous qui m'avez mis longuement à rude épreuve. Ami, sachez sans nul doute que je suis votre ami et que personne au monde, hormis vous, ne peut faire cesser ma douleur, me rendre la santé et la faire prospérer. Il n'y a plus de méprise entre eux, au contraire. Ils savent désormais la vérité, qu'il est son ami et elle son amie. Bon, alors, la suite, c'est qu'ils s'aiment très fort, ils se marient et elle tombe enceinte. Sauf que comme les femmes ne peuvent pas hériter dans ce pays, ils décident que quel que soit le sexe de l'enfant, ce sera un garçon.
Chapitre 7, naissance de silence. La comtesse prend de plus en plus de poids. Le comte s'inquiète de son mal. L'enfant la tourmente, la frappe, la pique. Le jour de l'accouchement approche. Vous savez qu'il n'est pas convenable que je décrive à travers les rimes de mon conte les efforts et les souffrances de la dame. Je me contenterai de dire qu'elle enfanta et que l'enfant vint dans la douleur. Pour la pauvre comtesse, c'était comme si les maux de l'enfer s'étaient insinués dans son cœur, ses os, ses nerfs, ses veines, tant ses douleurs étaient intenses. Et la cousine du comte n'eut jamais à souffrir autant non plus, car elle était seule et sans assistance pour délivrer la comtesse. Comme on vous l'a souvent dit, qui s'occupe d'un malade prend part à son mal. Revenons-en à l'enfant. Je veux à présent révéler son sexe et faire savoir ce qu'il était, garçon ou fille. Seigneur, c'était une fillette. À travers elle, nature montrait tout ce dont elle était capable. Ne vous déplaise si je vous dis et vous apprends ce que fut son œuvre. Vous devez avoir l'habitude, pour connaître un conte, d'entendre dire ce qui s'y rapporte. Nature, la très puissante, s'approcha de l'enfant et s'appliqua à la tâche en se disant « Je veux réaliser un chef-d'œuvre. » Nature s'y est appliquée. La matière en est belle et pure. Jamais nature n'en travailla de meilleure. Elle est belle et nature la rendra plus belle encore car elle compte en faire sa demoiselle. Voici ce que dit la rusée nature, admirable à l'ouvrage. Je ne me suis encore jamais décidée à prendre cette matière et à l'utiliser. Aujourd'hui, je vais l'employer pour réaliser ma demoiselle. Plus la matière est déliée, plus il faut affiner l'œuvre, bien commencer et terminer mieux encore. J'ai longtemps laissé de côté cette matière et j'ai eu bien de la peine avec la matière grossière et vulgaire. Je veux à présent consacrer mes efforts à celle-ci. En elle seule, car tel est mon bon plaisir, je concentrerai davantage de beauté qu'il y en a dans la réunion des 1000 plus belles femmes de ce monde. Une fois au moins, mon œuvre doit manifester ce dont je suis capable. Puis, elle va à son coffre et l'ouvre. Il s'y trouve par centaines de milliers des moules qui lui sont indispensables. En effet, si elle n'en avait utilisé qu'un, tout le monde se ressemblerait tellement qu'il serait impossible de distinguer et de nommer quiconque. Mais nature veilla bien à ce que rien dans son œuvre ne fût à blâmer. Elle possède de grands et de petits moules, des laids, des contrefaits, des parfaits, car c'est ainsi que sont les gens, grands ou petits, beaux, racés. C'est pourquoi il y a une si grande diversité de moules. Nature en saisit un, qu'elle n'a jusqu'alors jamais consenti à utiliser. Par tout ce qu'elle a déjà réalisé, elle jure qu'elle a grande envie de se remettre au travail. Elle prend donc ce moule et l'emporte là où elle a la ferme intention de se mettre à l'œuvre. Elle commence par le haut et façonne une jolie tête qu'elle orne d'une chevelure blonde qui luit clairement dans l'obscurité de la nuit. Elle lui boucle les cheveux et depuis la raie jusqu'aux oreilles descend tout droit sans que son peigne ne se casse. Puis elle fixe la chevelure au crâne. Jamais il ne sera nécessaire de chercher la raie, de peigner ou tresser ses cheveux. Nature sera là pour les remettre en ordre. Nature lui dessine et forme de petites oreilles et des sourcils bruns qu'elle place adroitement. Nul homme ne peut en voir d'aussi beau. Nature s'exclame alors « Que je sois punie s'il manque quoi que ce soit !» De son pouce, elle délimite alors adroitement l'espace entre les deux yeux, puis rapidement, elle lui fait un visage bien lisse et bien composé, d'un teint plein de santé. « Ce sera ma fille, » dit Nature. Alors, elle lui colore le visage de rouge, teinte qui s'affirmera de plus en plus sur les joues au fil de la croissance de la jeune fille. Elle trace la bouche, crée une petite ouverture et des lèvres proportionnées, ainsi que des dents bien serrées au-dessus du menton. Jamais vous ne verrez un si beau visage. Ensuite, elle lui façonne un long cou blanc, greffe de chaque côté des épaules bien arrondies. Elle lui fait encore des bras bien droits, de petites mains aux doigts longs, une poitrine de belle forme, des flancs minces. Jamais homme libre ou asservi ne vit femme mieux conformée. Nature lui forme encore des hanches arrondies, des cuisses tendres et bien faites, des jambes droites, des pieds aux orteils délicats. À quoi vous servirait que j'allonge encore ma description ? Vous iriez croire qu'il s'agit d'un songe. La vérité, c'est que nulle femme plus belle qu'elle ne naquit ni ne vécut en ce monde, pour autant que je puisse en juger. Rien en elle n'est à blâmer, si ce n'est qu'elle est trop belle. Elle est pourvue de tant d'attraits qu'il serait largement du goût de 1000 femmes si elle pouvait se partager pareils traits de beauté. Jamais nature n'a aussi bien œuvré en donnant vie à une créature mortelle. » Donc s'ensuit la narration de l'enfance de Silence. Silence est directement envoyée à l'écart de la société, dans une forêt. Elle est éduquée dans une maison par la cousine du comte. Et elle est vraiment éduquée comme un garçon. Elle apprend à être un vrai chevalier.
Chapitre 9. Enfance de Silence. Au bout de 12 ans, Nature vint le blâmer vivement et le disputer. « C'est bien étrange que tu t'amuses comme un garçon, que tu ailles au vent et au soleil, car c'est avec un moule spécial que de mes deux mains je t'ai créé. Et j'ai réuni en toi toute la beauté que j'avais si longtemps économisée. 1000 personnes m'estiment ridiculisée par ta grande beauté, car cette beauté dont tu es comblée, je l'ai refusée à 1000 femmes. Pour l'heure, 1000 d'entre elles te désire énormément à cause de la beauté qu'elle te voit, car elle croit peut-être que tu possèdes une chose que tu n'as pas. Et telle, qui est actuellement ta grande amie, te haïrait de tout son cœur si elle connaissait ton état. Elle s'estimerait grugée une fois son espérance ruinée. Vraiment, tu m'outrages gravement en te pliant à une telle éducation. Tu ne dois pas vivre dans les bois, lancer des javelots, tirer et chasser à l'arc. Sors de là, c'est nature qui te le dit. Va faire de la couture dans ta chambre, voilà ce que réclame la loi naturelle. Tu n'es pas silencieux. Et l'enfant lui répond, je n'ai jamais rien entendu de tel. Silencieux, qui suis-je donc ? J'ai nom silencieux, je le crois bien, ou alors je suis autre que je n'ai été. Mais je sais bien, je le jure sur ma main droite, que je ne puis être un autre. Je suis donc silencieux ou je ne suis personne. En son fort intérieur, il se dit que nature joue sur les mots avec lui. Sous prétexte que cette us est contraire à l'usage, il ne se nomme pas silencieux. Il est tenté d'aller coudre, comme le lui a ordonné nature, car même pour un fief ou un héritage, on ne doit pas vivre de façon si sauvage. Alors survient culture. qui voit que silence parlait à nature. Dis donc, que fais-tu ici ? Nature me gronde, et ma foi, elle n'a pas tort de m'inciter à prendre pour habitude une conduite légitime, car celle que je mène n'est pas naturelle. C'est vrai, jamais aucune femme de ma famille n'a mené un tel genre de vie. Moi non plus, je ne le suivrai pas plus longtemps. Je me conformerai à une conduite de femme. Je ne veux pas avoir les cheveux coupés, ni porter des vêtements fendus et débrés. Je ne veux plus davantage vivre comme un garçon, prendre mon carquois et mon arc. Pareille histoire arriverait-elle jamais à aucune femme ? Non, jamais. Maintenant, quand je reste habillée pour me tenir à l'écart des jeux ordinaires des garçons, tous mes compagnons raillent. En voilà un dont le courage sera redoutable s'il obtient de vivre longtemps. Mais ils ignorent ce qui convient à mon état. Et lorsque je me déshabille, j'ai peur que mon sexe ne vienne à être découvert et ne soit bien méchamment accueilli. J'ai jusqu'à présent vécu enfermée dans une cour de château. Je laisserai tout ceci derrière moi et dorénavant, je vivrai paisiblement. Le Dieu Tout-Puissant qui me fit naître saura me guider et me combler. N'ai-je pas entendu dire qu'il est tellement bon qu'il accorde à toute créature tout ce qui lui convient ? Une femme a-t-elle jamais été vilement abusée et trompée au point de faire ce que j'ai fait par cupidité ? Vraiment, je ne sais pas. Croyez-vous que Culture fut contente d'entendre ceci ? Oh que non. Au contraire, elle frémit et gronde, s'irrite contre Nature, la regarde droit dans les yeux et lui dit d'un air fâché : Laissez mon élève tranquille, maudite nature. Je l'ai complètement dénaturé, c'est vrai. Jamais il ne vivra sous votre coupe. Si vous ne cessez de rôder autour de lui, je retournerai, par mes soins, 1000 personnes contre vous. Vous pourrez bien aller vous vanter très loin si je n'y arrive pas. Je suis parfaitement capable d'apprendre à un enfant noble à devenir un mauvais homme. Je vais démolir tout ton discours, nature. Va-t'en avec la honte de Silencius. Après que Nature fut partie et eut dévalé le rocher où Culture avait argumenté de la sorte, voilà que le combat intérieur de Silence recommença. Raison lui démontre en détail que se résoudre et s'employer à rejeter son éducation pour suivre sa nature est à peine mieux que mourir. Crois mon conseil, Silence, mon ami, et fais la paix dans ton esprit. Fais de ton cœur une citadelle. Si Nature, qui te tourmente en ce moment, te capture en le prenant, sois sûr que jamais plus tu ne pourras être un jeune homme. Tu perdras tout, cheval et charrette. N'espère pas que le roi te donne ton fief au prix d'un parjure s'il apprend ta véritable nature. Raison est à son tour restée si longtemps auprès de Silence, elle l'a tant sermonné, qu'il reconnaît avoir cru un conseil stupide lorsqu'il pensait se défaire de ses bonnes vieilles habitudes pour adopter une conduite féminine. Il se rappelle alors les traditionnelles occupations d'intérieur dont il a souvent entendu parler. L'état de femme et ses usages l'ennuient profondément. Il se rend compte que la situation de l'homme vaut vraiment mieux que celle de la femme. « Vraiment, fait-il, ce serait malheureux de me rabaisser quand je domine. Je suis au-dessus. » Il me faudrait aller au-dessous. J'ai de la valeur et du courage à revendre. Mais je perds tout et je fais mon déshonneur si je souhaite rejoindre l'état de femme. J'ai pensé cela pour me faciliter la vie. Mais ma bouche est trop rude pour donner des baisers. Trop raides sont mes bras pour enlacer. Le jeu qu'on mène sous les courtines pourrait vite me mener à la mort, car je suis un jeune homme et non une demoiselle. Je ne veux pas perdre mon grand héritage, ni l'échanger contre un moindre. Je ne veux pas manquer à la parole que j'ai donnée à mon père. Sinon, que Dieu me fasse connaître la mort. Nature peut bien s'évertuer, je ne révélerai pas ma situation. Telle est la vérité, ainsi que le dit l'histoire qui retrace la vie de Silence. Jamais personne n'eut à se plier à une contrainte semblable à ce que vous pouvez entendre à ce sujet. Je ne prétends pas qu'il n'ait pas été agité de pensées contradictoires, ni ne se soit tenu des raisonnements bizarres. C'est normal pour un enfant d'une naissance telle que la sienne, surtout pour un enfant si jeune qui doit s'appliquer à pareil mode de vie. Et le cœur est une chose étonnante, d'étrange nature. Capable d'une puissante réflexion, il tourne et retourne bien souvent les profondes pensées qu'il abrite pour son propre malheur. C'est pourquoi je dis que Silence, obligé à de grands renoncements, était tourmenté de pensées qui le faisaient souffrir. Sans cesse, il était sur le point de contrarier ce à quoi son cœur aspirait. Or, qui agit contre son désir doit s'attendre à souffrir souvent. Le cœur de Silence était partagé.
Alors là, deux ménestrels passent dans la forêt et se perdent et sont recueillis dans la maison où est élevé Silence. Et Silence est totalement fasciné par leur art. Chapitre 10, les deux ménestrels. Silence alla alors se coucher, mais ne dormit pas de la nuit. Sa conscience le taraudait, son cœur lui soufflait. « Allons, Silence, tes vêtements et ton hâle font croire aux gens que tu es de sexe masculin. Mais il y a sous ton habit autre chose qui n'a cure de tout ceci. Si le roi Ébain venait à mourir aujourd'hui ou demain, les femmes auraient à nouveau le droit d'hériter. Mais pour l'heure, tu es si rude, tu ne connais rien aux affaires des femmes. Le cas échéant, car il ne faut pas négliger cette éventualité, il te faudrait tout apprendre pour te comporter convenablement. Mais si tu prolonges durablement ton mode de vie actuel, je sais bien que tu deviendras chevalier, et probablement un chevalier couard ou mal assuré, car jamais je n'ai vu de femme habile au maniement des armes. Cette éventualité est également fort plausible. Si donc tu ne sais d'aucune manière aider tes compagnons, ils ne s'entendront pas bien avec toi. Va-t'en donc en terre étrangère chercher et apprendre sagesse et savoir. Entre-temps, une nouvelle pourra survenir qui te serait favorable. Que dira donc ton père le comte ? Que deviendra donc ta mère ? Que diront-ils quand ils sauront que tu es parti ? Qu'importe. Ils te retrouveront bien si Dieu le souhaite et le décide. Tu t'en iras avec ces jongleurs. Pour peu que tu les serves bien et que tu t'en donnes la peine, tu pourras apprendre à jouer de la musique. Si tu ne peux être qu'un piètre chevalier, l'art du jongleur saura en revanche te profiter. Et si le roi vient à mourir, cet art te divertira chez toi. Tu auras ta harpe et ta vielle, à défaut de savoir manier broderie et ruban. Tu pourras adoucir ton sort, en cas de malheur, grâce à la garantie que t'offrira au moins ce métier. Cette audacieuse pensée plongea Silence dans un trouble profond, alors que le jour allait bientôt paraître.
Donc Silence part avec les deux ménestrels. Chapitre 11, désespoir des parents de Silence, mésaventure de Silence. Je désire revenir au sénéchal chargé de garder l'enfant. Comme Silence avait l'habitude d'aller à la chasse, il ne soupçonna rien jusqu'à la tombée de la nuit. Puis l'inquiétude germa en lui, et quand il constata que Silence tardait plus que de coutume, il comprit que les ménestrels, malheur, lui avaient traîtreusement enlevé le jeune homme. Alors, on aurait pu le voir se répandre en larmes, tirer ses cheveux, tordre ses poings et se frapper la poitrine, et les dames et les demoiselles pleurer et rompre leurs anneaux à force de se tordre les mains. Mais ce n'est rien encore. Voilà que le sénéchal et la nourrice de Silence s'évanouissent, ce qui achève de semer la confusion. Quand ils reviennent à eux, 100 hommes sont envoyés à travers toutes les terres à la recherche de Silence. La nouvelle se répand et a tôt fait de parvenir à la cour. Le jeune homme si courageux, si gentil et si beau a disparu. Entendant cela, le comte, son père et sa mère Euphémie éprouvent en leur cœur une telle douleur et une telle colère qu'il est impossible de vous en dire le centième. C'est à peine si leur cœur ne se rompt pas. Pour un peu, ils en mourraient. À plusieurs reprises, ils s'évanouissent, reprennent conscience. Les barons qui les aident à se relever se retiennent eux-mêmes à grand-peine de défaillir. Pour les faire revenir à eux, ils évitent de faire du bruit. À la vérité, ils souffrent d'autant plus qu'ils répriment leurs sentiments. Pour peu que l'on éprouve en son cœur de l'angoisse, on a, selon les circonstances, diverses possibilités de dévoiler ses soucis. Le visage peut être éloquent lorsqu'on n'a pas le loisir de parler ou qu'on est obligé de se taire. On peut se confier en privé à un ami ou publiquement, s'il y a lieu d'être entendu et de se réjouir ouvertement, ou s'il y a lieu de révéler une affaire délicate. Dans tous les cas, on se sent bien sûr considérablement soulagé de pouvoir découvrir son cœur, d'une manière appropriée à ce qu'exige la situation. Mais les barons n'osent faire du bruit, de peur que la comtesse, dont le souffle n'est plus perceptible, ne meure, et par égard pour l'affliction du comte. Le moindre bruit risquerait de leur faire rendre l'âme. En vérité, leur pâmoison fut encore plus longue et plus grave que nous ne disons. Écoutez ce qu'ils firent lorsqu'ils furent quelque peu remis. D'une voix forte, il s'écrie « Silence, fils chéri, quelle dure pénitence vous nous infligez là. La douleur qui nous submerge à cause de vous nous fait languir et nous ôte la vie. Plus nous verrons de joie autour de nous, plus il nous faudra nous lamenter. Mais comment pourrait-il nous arriver pire? Vraiment, je n'en sais rien. Tous les maux à la fois s'abattent sur nous quand notre fils, qui était un modèle pour le monde entier, nous quitte et nous condamne à chercher notre bien jusqu'au fond de la mer. Il nous reste à nous noyer ou vivre peu de temps encore. Puisqu'une peine si grande s'abat sur nous, notre moindre mal est de vivre peu. Nous sommes voués au désespoir puisque nous avons perdu le motif de notre joie. Si c'est pour vivre sans joie, autant nous noyer comme lui. Notre joie est partie vers la mer. Si elle n'avait été noyée et engloutie tout au fond, nous n'aurions pas tant à redouter pour son sort. Mais à quoi bon avoir peur? Notre malheur n'arrive pas goutte à goutte, il nous est tombé dessus tout d'un coup. Qu'est-ce qui pourrait encore nous effrayer? En effet, nous sommes bien certains de ne jamais connaître pire malheur que maintenant. Nous n'avons aucune aggravation à craindre et ne pouvons espérer aucune amélioration. Nous avons hier soir perdu et notre peur et notre espoir. Tout le pays plein silence. Le peuple, de nature démonstrative, ne peut réfréner ses larmes et ne demeure pas plus longtemps auprès des parents de silence. Il se retire pour pleurer sa peine, se lamenter à grands cris. Pour sûr, le comte et la comtesse mènent grand deuil parce qu'ils ont perdu leur héritier. Seigneur, vous avez entendu leur plainte. Chaque jour, il la renouvelle et la multiplie. Cependant, tout ce qu'on pourrait en dire ne susciterait que rire et plaisanterie. Qui agite trop la vérité finit souvent par rendre les gens dubitatifs. Aussi, ne veux-je pas trop en dire. Donc Silence est parti avec les ménestrels. Il apprend à devenir musicien et il voyage avec eux un certain temps. Puis, au bout d'un moment, il revient au royaume d'Angleterre. Il retrouve son père et sa mère et se fait embaucher comme musicien à la suite du roi.
Chapitre 13. Tentative de séduction de Silence par la reine. Un jour, le roi se rendit dans la forêt, emmenant des Anglais avec lui. Euphème, alors Euphème, c'est pas Euphémie, Euphème, c'est la reine, et Euphémie, c'est la mère de Silence. Euphème, qui avait prémédité la situation, se prétendit malade et fit rester Silence pour l'amour de qui son cœur tressaillait de douleur. Il était chargé de la divertir en jouant de la harpe, mais cela risque de lui nuire avant qu'il ne retrouve son vrai sexe. La reine convoque Silence dans sa chambre et pour dissimuler ses intentions, elle lui demande d'apporter sa harpe, comme s'il s'agissait de la réconforter. Dans sa chambre, ornée de peintures et bien close, elle compte lui avouer son amour en secret. C'est pourquoi elle a fait vider les lieux de tous leurs occupants, afin qu'ils ne puissent pas la soupçonner. Elle s'est montrée capricieuse dans la journée, feignant de ne pouvoir ni manger, ni supporter aucun bruit. Elle refuse que quiconque demeure, hormis le harpeur. Il l'apaisera à ce qu'elle dit. Elle n'agit pas sagement, car à vrai dire, elle n'obtiendra jamais de lui nul apaisement, à moins qu'il ne l'embrasse. Elle risque de le mettre encore davantage dans l'embarras lorsqu'elle voudra en venir au surplus et qu'elle échouera à l'obtenir de lui. Silence a bien accordé sa harpe, atténuant la douleur de la reine qui se penche et s'appuie sur lui. Au fur et à mesure que Silence joue de la harpe de si douce manière, elle s'en éprend plus fortement et se dit en son fort intérieur « Je vais lui confier mon amour et tout lui avouer. » Puis elle se dit « Tu veux le lui dire ? Veux-tu donc t'abaisser à ce point ?»« Oui, je n'aurai de cesse, en dépit de l'humiliation, des reproches, que de lui faire savoir dès maintenant qu'il peut obtenir mon amour. Je ne le remettrai pas à plus tard. » Alors, elle l'enlace et l'embrasse et lui dit « Heureux êtes-vous. Embrassez-moi, n'ayez pas honte. Pour un baiser, je vous en rendrai deux. Ne trouvez-vous pas extraordinaire de gagner ainsi au change ?»« Si, fait le jeune homme demoiselle. Alors, embrassez-moi, dit la reine. » Silence lui donne un chaste baiser sur le front, au-dessous de la guimpe, car à vrai dire, il ne songe pas à la sorte de baiser qu'elle désire. Et la dame, qui ne souhaitait pas être si parcimonieusement embrassée, lui donne 5 doux baisers, amoureux et langoureux, en plus des 2 promis. Elle l'en accable tant que Silence est tout embarrassé. « Mon Dieu, fait la dame, vous fuyez ? Comment cela ? Y a-t-il danger ? Notre petit commerce ne vous plaît-il pas ? Si, ma reine, il me ravit, mais je vous en dispenserai volontiers. » « Ah oui, pourquoi ? » réplique-t-elle alors. « Un homme de votre famille, de si grande valeur qu'il fût, a-t-il jamais reçu don si insigne ? Je me livre à vous tout entière. » Le garçon qui est demoiselle se trouve en rude tourment. Il préférerait se trouver à 100 lieues de là, au calme et en paix, plutôt que dans cette chambre d'angoisse où il ne sait que faire. La dame dégrafe la précieuse broche d'or qui fermait son col. Sa peau est blanche comme de la neige fraîchement tombée. Nulle ride ne la menace, car ce souci n'est pas encore de son âge. Sa chair, au contraire, est potelée, douce et tendre. L'insensé dit au garçon « Voyez mes bras et mes flancs. Madame, fait-il de grâce arrêter, au nom de Dieu, épargnez-moi. Si je trahis ici ma loyauté, je serai déshonorée et je deviendrai l'égal des pires hommes de la terre. Il n'existe pas de méfait plus grave au monde, car je suis au service de votre seigneur et membre de sa famille à je ne sais quel degré. Qui pourrait jamais m'absoudre d'une telle faute ? Vous, vous confessez ? Mon Dieu, que me dites-vous là ? Allez-vous devenir moine ou ermite ? Faites donc savoir au comte votre père et à la comtesse votre mère que vous souhaitez vous faire ermite et entrer en religion. Vous ferez un bon abbé. Reine, vous vous moquez de moi ? Non, si vous restez ici. J'ai voulu dire qu'un jeune en pleine santé est comme un vieux démon. Mon cher, laissez tomber tout cela. Mieux vaut demeurer ici qu'aller risquer sa peau dans la forêt. » Elle lui passe alors les bras autour du cou, aux grandes dames de Silence, qui lui dit, ne pouvant à cause de son sexe accepter un tel manège, « Madame, restez tranquille. » Il s'arrache de ses bras et se lève. La reine, près de perdre la raison, cherche à le retenir. Poussant un soupir, elle lui demande « Augmentez-vous votre prix ? Puisque vous savez vous rendre si cher, vous devriez vous consacrer au commerce. Certes, vous imitez bien les rustres de vile condition. Je n'ai agi que pour vous mettre à l'épreuve. J'aurais tout lieu de m'inquiéter si j'étais réellement dans de telles dispositions à votre égard. Que Dieu vous accable, car vous auriez fait exactement ce que je demandais si je l'avais réellement voulu. » Alors, elle le lâche et il s'en va. Désormais, elle s'emploiera à lui chercher des ennuis et à le mettre dans l'embarras à cause de sa jeunesse. La dame, Dieu la punisse, qui naguère l'aimait plus que tout être au monde, le hait maintenant démesurément.
Cultive, satisfait, un amour légitime, mais si, trop attiré par l'appât d'un doux crime, tu suis d'autres Apollons et crains leurs fruits honteux. Pour te sauver de mal, renonce à de tels feux. Ou si quelques liens t'obligent en cette affaire, voici ce que je peux te conseiller de faire. Prends soin de te laver d'eau pure auparavant. Prends soin que ton amant en fasse tout autant. Et quand du lieu sacré ta prudente sortie aura d'un long péril préservé ta partie. Lave-toi de nouveau, pisse dans le moment, et tu pourras toujours uriner librement.
Donc, silence se fait chasser du royaume d'Angleterre.
Le roi d'Angleterre demande au roi de France d'éliminer silence. Mais le roi de France, n'ayant pas la raison pour laquelle il doit éliminer silence pour son ami le roi d'Angleterre, fait rapatrier, dit « je ne tuerai pas silence » et il renvoie au roi Hébin silence, qui arrive de nouveau, qui fait une guerre pour le roi Hébin, qui gagne une guerre, mais qui ne gagne toujours pas les faveurs du roi et de la reine, parce que la reine est toujours très 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 énervée. Et elle propose au roi Hébin, pour faire à nouveau disparaître silence dont ils n'arrivent pas à se débarrasser, d'aller chercher Merlin dans la forêt et de le ramener, ce que personne n'a jamais réussi à faire. Donc, le chapitre, dernier chapitre, numéro 18, les révélations de Merlin. Ah oui, alors Merlin, en arrivant dans la ville, silence ramène Merlin. Merlin, en arrivant dans la ville, rit de toutes les situations qui se passent autour de lui. Et le roi le fait venir à la cour. Donc, se rend compte qu'il a été capturé, mais en plus de ça, lui demande les raisons pour lesquelles il n'arrête pas de se marrer et de se moquer des gens qu'il a croisés. Donc, Merlin s'explique. Merlin tousse et dit « Écoutez, sire, je vais expliquer pourquoi j'ai ri de vous, puis de moi, puis de silence, que je vois ici, de la nonne qui se courbe là-bas, et enfin de la reine. Sachez-le, j'ai ri de nous cinq, car pas un de nous ne s'est abstenu de tromper autrui. Mon roi, nous voilà prévenus. La plaisanterie n'est pas égale pour tous, car l'un de nous est déshonoré. Sachez que deux d'entre nous en ont trompé deux autres par de simples déguisements. La salle est remplie de chevaliers. Tandis que tous l'écoutent, Merlin énonce l'exacte vérité, mais ses paroles, volontairement dissimulées, sont fort obscures. Seules quatre personnes, dont l'assistance savent parfaitement ce qu'elle signifie. Merlin, Silence et la nonne savent ce qu'elles veulent dire. Il en est de même pour la reine. Elle sait tout à fait de quoi il retourne. L'émotion au sein de la cour est intense, à juste titre, pour certains, à tort pour d'autres. Chacun s'inquiète de ce qu'il a fait, par peur que Merlin ne le dévoile. Ceux qui connaissent leur culpabilité ne peuvent s'inquiéter davantage. La tension monte. Il m'est impossible de vous décrire la pénible atmosphère de soupçons qui règne à ce moment. Merlin a préparé une leçon telle que, s'il recommence à l'enseigner, à raconter et à expliquer ce qu'il sait et à dévoiler tous les torts, la dame, pour le moins, sera déshonorée, de même que la nonne, qui n'est pas semblable en tout point aux autres nonnes. Le roi somme alors Merlin de parler plus clairement. Merlin, je veux savoir comment l'un de nous peut tromper l'autre. Merlin, tu dois m'en aviser. Éclaire-moi ensuite sur les déguisements. Qui sont les deux trompés? Qui les deux trompeurs? Qui est déshonoré? Je t'en prie, Merlin, je veux que tu m'apprennes tout cela. Sire, la vérité, c'est que la reine vous a déshonoré. Vous saurez comment avant l'heure de nonne. Ces deux-là, Silence et la nonne, sont ceux qui nous ont trompés, et nous deux, leurs victimes. Cette nonne qui accompagne Euphème vous trompe avec son habit de femme. Sire, vous voilà au courant. De son côté, Silence m'a trompé avec ses vêtements de garçon. Voilà la vérité. Si l'habillement est masculin, il y a une jeune fille sous ses vêtements. La nonne, qui ne craint ni la chaleur du soleil, ni la bise ou le vent pénétrant et glacé, a des vêtements féminins. Beau sire, roi, j'en atteste Dieu. Silence est très savante et très vaillante. Je ne connais pas d'homme, si fort soit-il, capable de la vaincre. Une faible femme a été capable de vous déshonorer. Elle a su et osé le faire. Une autre femme m'a capturée. Qu'y a-t-il d'étonnant à ce que j'en ris? Toutes deux nous ont trompés. Elles ont déclenché une situation que 20 000 autres n'auraient été capables d'imaginer. Sire, je ris de toute cette affaire. Jamais Écossais ni Anglais ne fut plus bouleversé que le roi à ce moment-là. Peu s'en fallut qu'il ne désira mourir. Les barons ont tout entendu, car pas un mot n'a été dit en secret. Ils en étaient désolés pour le roi, mais le reste leur était indifférent, car la reine était grandement coupable et pleine de vilenie, d'orgueil et de perfidie. Elle s'était toujours montrée cruelle et dépourvue d'honnêteté. Elle promettait peu et donnait moins encore. Elle accordait ses faveurs de façon méprisable. Toute la cour l'a détestée. Mais le roi a encore des doutes. Il fait fermement tenir Merlin et fait avancer la nonne, la fait déshabiller. Puis il ordonne de dévêtir Silence. Elle a tôt fait de les découvrir tels que Merlin l'a dit, en tout point conforme à sa description. Il se fit un grand silence dans la salle. Nul ne parla sauf le roi. Ni n'aurait risqué une parole sans son ordre formel. Devant tous, le roi dit « Silence, tu as été un chevalier accompli, plein de courage, de valeur et de bonté. Jamais roi ni comte n'en engendra de meilleur. Je te conjure à présent, au nom de la foi que tu dois à notre Seigneur Dieu et à moi-même, de me dire pourquoi tu t'es conduite de la sorte et dans quelles circonstances. Nous voyons bien que tu es une femme. Explique pourquoi Euphème a prétendu que tu avais voulu la violer. Elle aurait bien aimé te faire écorcher vive. Sire, aussi vrai que j'espère quelques bienfaits de Dieu, je n'ai pas le droit de vous mentir. Mon père a décidé de mon sort. Quand j'eus atteint l'âge de raison, il m'expliqua que jamais, dans votre royaume, je ne pourrais recueillir mon héritage. Pour conserver mes droits sur mon héritage, il me demanda de vivre comme un garçon, de fendre mes vêtements, de m'exposer au soleil. Je n'ai pas voulu lui désobéir. À 15 ans, cher Seigneur, je vins à la cour. La reine tomba aussitôt amoureuse de moi. Je ne voulus pas lui révéler mon secret de peur qu'elle n'aille m'accuser et faire connaître ma nature véritable. Elle s'imagina que je la dédaignais par orgueil et que je ne voulais pas l'aimer. Un jour, vous avez pénétré dans la chambre où nous nous trouvions. Elle vous prétendit aussitôt que j'avais voulu l'aimer de force. Vous m'envoyâtes de l'autre côté de la mer, car vous croyiez véritablement la reine. Je me suis tue à cause de mon héritage. Je ne voulais pas vous dire la vérité. Sire, vous savez maintenant ce qu'il en est. Par ailleurs, je ne voulais pas déclencher votre colère et blâmer le comportement de la reine à votre égard. Puis-je regagner vos terres et vous aider à mettre un terme à la guerre ? À cette époque, la reine m'assaillit à nouveau de ses ardeurs. Je ne daignais pas même lui parler. Pour cette raison, elle voulut me déshonorer et me faire exiler du pays. La vérité ne peut souffrir que je vous fasse le moindre mensonge. Je ne veux plus me taire. Faites de moi ce qui vous plaira. » Le roi eut alors ces paroles royales. « Silence, grande est ta loyauté. Cette qualité surpasse assurément mon titre de roi. Il n'existe pas de pierre plus précieuse, de trésor plus appréciable qu'une femme honnête. Nul ne saurait estimer à sa juste valeur la femme qui ne cherche pas à tromper autrui. Silence. Sais-tu ce que tu as gagné en agissant comme tu l'as fait ? Je veux t'ôter tout sujet d'amertume. Sire, cette aide me sera précieuse. Sais-tu ce que je vais faire par amitié pour toi ? Les femmes pourront de nouveau hériter. Tu n'entendras jamais de plainte à ce sujet. » Avec sagesse, Silence répond. « Voilà un don gracieux, que Dieu vous en récompense. C'est à de tels actes qu'on reconnaît un roi. » Grande est la joie dans le palais. Tous s'inclinent jusqu'à terre devant le roi, bénissent Silence et prient Dieu pour sa prospérité. Le roi prie Euphème en horreur. Il ne consentit jamais à lui pardonner. D'ailleurs, nul n'intercéda pour elle. Conformément aux ordres du roi, la nonne fut donc mise à mort et la reine écartelée. Telle est la justice du roi. La reine s'est prise au piège où elle comptait prendre Silence. Ainsi vont les choses. Telle qui croit préparer le malheur d'autrui ourdit son propre dommage. Il ne se trouva personne pour plaindre Euphème. Quant à Silence, elle fut revêtue d'habits de femme. Seigneur, que vous dirai-je de plus ? Son nom fut jadis Silencius, Luce est partie, remplacée par un A. Elle s'appelle maintenant Silencia. Nature, 3 jours après qu'elle eut repris ses droits, s'employa de rechef à polir ce corps et à en faire disparaître tout caractère masculin. Elle n'y laissa pas la moindre trace de hâle. Elle eut au fait de lui recomposer un visage uni de rose et de lys. Suivant le conseil des barons qu'il aimait et estimait le plus, à ce qu'affirme l'histoire que j'ai consultée, le roi l'a pris ensuite pour épouse. Le comte, père de Silence, ainsi que Phémie, sa mère, assistèrent au mariage. Leur joie fut grande, à juste titre.
Voici la conclusion de Maître Eldris. Il faut davantage aimer les honnêtes femmes que détester ou blâmer les méchantes. Voici pourquoi. Une femme a moins de raisons, dans des circonstances qui lui sont favorables, d'être bonne que d'être mauvaise. Si, allant contre sa nature, elle fait le bien, il m'est aisé de démontrer qu'il faut en faire plus grand cas que de celle qui commet le mal. Si j'ai aujourd'hui blâmé Euphème, les femmes vertueuses ne doivent pas s'en irriter. Certes, j'ai lourdement critiqué Euphème, mais j'ai loué Silence encore plus. Que les braves femmes n'en soient pas mécontentes. Loin de prendre à leur compte le blâme qui pèse sur une autre, elles doivent s'efforcer davantage encore de faire le bien. Je veux arrêter ici mon compte. Béni soit celui qui vous l'a conté. Béni soit celui qui l'a conçu. Que Jésus accorde ce qu'il désire à ceux et celles qui l'auront entendu.
Cardiaque, inspirant une aimable folie, la bourrache nous dit, point de mélancolie.